Bonjour à toutes et à tous. Christophe, heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la pierre à encre, le rendez-vous mensuel de Radio Grand Ciel avec le haïku. Ce petit poème d'origine japonaise, de la taille d'un canif, mais au tranchant plus redoutable que celui d'un sabre de samouraï. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez promis notre ami Dominique Chipot pour la suite des aventures de Masaoka Shiki. Mais à présent, nous avons rendez-vous avec qui ? Eh bien, encore avec Dominique Chipot, figurez-vous. Et oui, avec Dominique Chipot qui a adapté des haïkus japonais consacrés à l'enfance, traduits par Saori Nakajima et publiés aux éditions Pipa sous le titre « Un bruit de pas d'enfant », une anthologie de grands haïjin japonais. Il faut savoir que l'enfant est adulé au Japon. Le naturaliste américain Edward Morse a déclaré dans Japan Day by Day, publié en 1887, être convaincu, je cite, qu'aucun pays ne pouvait faire plus pour les bébés que le Japon. Et Isabella Bird, une écrivaine britannique qui voyagea au Japon au début de l'ère Meiji, eh bien, écrit dans son carnet de voyage, je n'ai jamais vu de gens aussi attachés à leurs propres enfants que les Japonais. Ils les portent dans leurs bras, ils les portent sur leur dos, ils les prennent par la main quand ils marchent, ils regardent et participent à leur jeu, ils leur donnent sans cesse de nouveaux jouets. Il les emmène en excursion et au festival et ils semblent toujours s'ennuyer sans eux. Quelle jolie introduction à cette anthologie de haïku dont je souhaite vous lire quelques-uns dans la première partie de votre émission « La pierre à encre ». Premier chapitre de ce livre, un bruit de pas d'enfant, bébé dans son couffin. Nous allons donc parler des nourrissons. De Kobayashi Issa, 1763-1827, bébé dans son couffin, un petit papillon butine la courbe de ses lèvres. Bébé dans son couffin, un petit papillon butine la courbe de ses lèvres. Toujours de Kobayashi Issa. Le rossignol. Le tout petit dans mes bras ouvre aussi la bouche. Le rossignol. Le tout petit dans mes bras ouvre aussi la bouche. De Nakamura Kusatao, 1901-1983. Les cinq doigts du bébé, agrippés à mon épaule, en serge. Les cinq doigts du bébé, agrippés à mon épaule, en serge. De Kobayashi Issa, à nouveau. Il a beaucoup écrit sur les enfants, il en a eu de nombreux dont la plupart sont morts, hélas, avant lui. Couché à ses côtés, elle allaite bébé et compte ses piqûres de puce. Couché à ses côtés, elle allaite bébé et compte ses piqûres de puce. De Yomibito Shirasu. Que bébé soit recueilli. Le parent dans le noir joint les mains. Que bébé soit recueilli. Le parent dans le noir joint les mains. De Kobayashi Issa. L'enfant, maintenant couché, elle lave ses langes, la lune d'été. L'enfant, maintenant couché, elle lave ses langes, la lune d'été. De Natsume Soseki, 1867-1916, sans difficulté, mise au monde le bébé, tel un concombre de mer. Sans difficulté, mise au monde le bébé, tel un concombre de mer. Deuxième chapitre, des lunettes de glace. Alors pourquoi des lunettes de glace ? À cause de ce poème introductif de Kobayashi Issa, les enfants se font des lunettes avec de la glace. Les enfants se font des lunettes avec de la glace. La neige fondue, le village se remplit de gamins. La neige fondue, le village se remplit de gamins. C'est un poème très connu de Kobayashi Issa. Nous allons maintenant passer à Hosaki Hosai, 1885-1926. Un enfant attrape des grenouilles sous l'œil d'une prostituée. Un enfant attrape des grenouilles sous l'œil d'une prostituée. Dit à Kobayashi, une bataille de gamins avec des radis blancs. Une bataille de gamins avec des radis blancs. De Masaoka Shiki, dont il sera question tout à l'heure. Masaoka Shiki, 1867-1902. Jouant aux échasses, l'enfant chinois appelle ses amis, un saule pleureur. Jouant aux échasses, l'enfant chinois appelle ses amis, un saule pleureur. Dosaki Osai, le chapeau d'été de mon enfant court loin sur le rivage. Le chapeau d'été de mon enfant court loin sur le rivage. Toujours de Osai. Balade avec les enfants, les vagues déferlent à nos pieds. Balade avec les enfants, les vagues déferlent à nos pieds. De Masaoka Shiki, un cerf-volant lancé par une nourrice sur la pente près du cimetière. Un cerf-volant lancé par une nourrice sur la pente près du cimetière. De Tomita Mopo, 1897-1923, il est mort très jeune, à 26 ans. L'enfant rentre marchant sur son ombre, libellule du soir. L'enfant rentre marchant sur son ombre, libellule du soir. De Nakamura Kusatao, 1901-1983, dans la ville en cendres, un seuil de terre battue, une fille joue à la balle. Cette ville en cendres, c'est probablement Hiroshima. Dans la ville en cendres, un seuil de terre battue, une fille joue à la balle. Et ce dernier, de Masaoka Shiki, un enfant rampe vers des feuilles d'herbe, un papillon. Un enfant rampe vers des feuilles d'herbe, un papillon. Vous êtes toujours à l'écoute de La Pierre à Ancre sur Radio Rancière. J'évoque aujourd'hui le livre Un bruit de pas d'enfant, des haïkus japonais sur le thème de l'enfant, traduit par Saori Nakajima et adapté par Dominique Chipot, c'est aux éditions Pipa. J'aborde le troisième chapitre de ce livre, Boîte à secrets, avec un haïku de Issa. Oh, le petit enfant, il range dans sa boîte. Oh, le petit enfant, il range dans sa boîte à secrets la première glace de l'année. Oh, le petit enfant, il range dans sa boîte à secrets la première glace de l'année. Du grand maître Bachot, 1644-1694. La pleine lune, les enfants de cœur alignés sur la galerie du temple. La pleine lune, les enfants de cœur alignés sur la galerie du temple. Toujours du maître Bachot. L'enfant pauvre, il suspend le décortiquage du riz et admire la lune. L'enfant pauvre, il suspend le décortiquage du riz et admire la lune. Un bond dans le temps avec Ozaki Osai. Les élèves autour du monument en plein soleil. Les élèves autour du monument en plein soleil. De Masao Kashiki. Candide. Il rentre entraînant une vache. L'enfant en sueur. Candide. Il rentre entraînant une vache. L'enfant en sueur. Ozaki Osai. Un enfant est venu chez moi pour dessiner. Un enfant est venu chez moi pour dessiner. Toujours de Osai. Un crayon taillé par un élève de petite taille. Un crayon taillé par un élève de petite taille. Masao Kashiki, au portail, des mères attendent leurs enfants. Cerisier sauvage. Au portail, des mères attendent leurs enfants. Cerisier sauvage. De Kobayashi Issa. Non, l'enfant, ne l'attrape pas, le nœud. Non, l'enfant, ne l'attrape pas, ne l'attrape pas. La puce a des œufs. Non, l'enfant, ne l'attrape pas, ne l'attrape pas. La puce a des œufs. De Osai. Ses nombreux enfants lisent chacun son livre. Ses nombreux enfants lisent chacun son livre. Osai toujours. Pour un enfant, je fabrique une boîte en bois sous ses yeux. Pour un enfant, je fabrique une boîte en bois sous ses yeux. De Buzon. Le nouvel an chez ses parents. L'apprenti rêve pendant la cuisson des haricots rouges. Le nouvel an chez ses parents. L'apprenti rêve pendant la cuisson des haricots rouges. De Osai. L'enfant mendiant sort d'un sac plein de noix de ginkgo. L'enfant mendiant sort d'un sac plein de noix de ginkgo. et ce dernier de Natsume Soseki, l'enfant du maître de chant, frappe un petit tambour, brève averse d'automne. L'enfant du maître de chant frappe un petit tambour, brève averse d'automne. Un quatrième chapitre, et ce sera le dernier, la main de l'enfant, avec, pour commencer, un haïku de Ozaki Osai, accompagné d'un enfant, voilà, au petit pont, des pruniers. Accompagné d'un enfant, voilà, au petit pont, des pruniers. De Masaoka Shiki, dans la main de l'enfant ouverte de force, du poivre vert. Dans la main de l'enfant ouverte de force, du poivre vert. De Tomita Mopo, la veillée funèbre, épiée par un enfant dans la nuit fraîche. La veillée funèbre, épiée par un enfant dans la nuit fraîche. De Sugita Isajo, 1890-1946, un vent souffle de l'est, ses oreilles apparaissent sous sa coupe au carré. Un vent souffle de l'est, ses oreilles apparaissent sous sa coupe au carré. Et je vais terminer par trois poème de Osai. Hé, j'étais le père d'un enfant sans mère. Hé, j'étais le père d'un enfant sans mère. Pour l'enfant un peu malade, j'achète un poisson rouge. Pour l'enfant un peu malade, j'achète un poisson rouge. Des enfants pleurent dans la rue. Chaque maison est éclairée. Des enfants pleurent dans la rue. Chaque maison est éclairée. Et puis, ce dernier haïku de Osai qui donne son titre à l'ouvrage, Un bruit de pas d'enfant. Un bruit de pas approche, un bruit de pas d'enfant. Un bruit de pas approche, un bruit de pas d'enfant. Et à présent, pour clore cette émission, je vous propose de retrouver notre ami Dominique Chipot, qui, vous le savez, depuis le mois de septembre, chaque mois, sur la pierre à encre, nous entretient de la réforme du haïku initiée par Masaoka Shiki. C'est très intéressant, ça nous permet de mesurer à quel point le haïku a su s'extirper, on va dire, de règles fixes, de règles intangibles pour évoluer et finir par voler de ses propres ailes, si j'ose dire. Voilà, nous rejoignons Dominique Chipot. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, bien sûr, sur les ondes de Radio Rancière pour une nouvelle édition de La Pierre à Encre. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez réécouter la présente émission sur www.radiorancière.fr en podcast.
Conseil de Shiki aux débutants. Dans ses principes du Haikai, paru en 1895, Shiki traite plusieurs sujets. Nous en avons étudié quatre la dernière fois. Il nous reste à voir l'apprentissage du haïku selon Shiki. Il commence par encourager les débutants à écrire sans trop se poser de questions. Avant de composer des haïkus, il est inutile, pour lui, d'apprendre toutes les règles, comme les mots de coupe, les thèmes des quatre saisons ou l'orthographie en kana. Mais ceux qui veulent apprendre doivent le faire progressivement, ajoute-t-il. Il affirme ensuite que ce serait une erreur de se limiter au seul langage raffiné hérité des anciens. Peuvent être employés aussi des mots populaires, des mots français, je pense qu'il veut dire étrangers, ou des mots chinois ou sino-japonais. Rappelons que, pour les poésies chaînées, les renga, dont le haïku est dérivé, deux écoles étaient en total désaccord sur le langage à employer. L'école Teimon, fondée à Kyoto par Teitoku, n'autorisait que les mots élégants, tandis que l'école Danrin, fondée à Osaka par Soin, acceptait tout type de langage, même grossier. Puis Shiki recommande, pour éviter la banalité, de s'interroger sur le sens de ces haïkus et de les montrer aux aînés, ceux qui ont de l'expérience. C'est un gage de progression, dit-il, d'écrire ces haïkus sur un papier pour les analyser par la suite, sans s'arrêter d'en écrire. Après avoir conseillé de lire les haïkus anciens et modernes, après avoir autorisé la composition de haïkus empruntant des éléments d'anciens poèmes, il dissuade de suivre exclusivement la voix des anciens, dont il condamne le style banal, tsukinamifu, méthode consistant à reproduire indéfiniment les mêmes expressions d'anciens haïkus. Le monde du haïku ne doit pas s'étriquer, dit-il, en incitant les nouveaux haïjin à persévérer. Il cite ensuite de nombreux haïkus qu'il analyse pour mieux expliquer ses pensées. Par exemple, à propos d'un haïku de Kyorai, Ototogisu, Nakuya Hibari no Juomonji, le chant du coucou, avec l'alouette des champs, une croix tracée. Shiki commente ainsi. Le coucou est un thème estival et l'alouette des champs un kigo de printemps. Cependant, comme le coucou ne chante pas au printemps et que l'alouette est également visible l'été, ce haïku est considéré appartenir à l'été. Les préoccupations éloignées des nôtres puisque nous n'avons pas de mot de saison codifié. Plus intéressante est la raison pour laquelle Shiki juge ce haïku ingénieux. Je cite. Le coucou vole sur une ligne horizontale et, en dessous, l'alouette monte verticalement de plus en plus haut. Par conséquent, au moment où le coucou croise l'alouette en ascension, se forme l'apparence d'une croix. En revanche, il apprécie guère ce haïku de Rensetsu, disciple de Basho. Hase tsuruya, Mizumura yamakaku, Sakabata fu. Pêche au gobi, les villages au bord de l'eau et les bannières des tavernes au vent. Shiki critique ainsi. Si vous utilisez une expression, le simple fait d'agencer sur une ligne le paysage que vous avez devant les yeux n'en fait pas un haïku. Pour apprécier le jugement de Shiki, il faut savoir que Rensetsu a emprunté le troisième vers d'Akatrin du poète chinois Tu Mu. Les villages au bord de l'eau et les bannières des tavernes près des montagnes flottaient au vent. En conséquence, son haïku n'est composé que de cette expression à laquelle il a simplement ajouté « pêche au gobi ». On perçoit bien avec ces deux haïkus la théorie de Shiki qui cherche à délimiter les haïkus banals et émouvants ou les haïkus statiques et dynamiques. C'est l'année suivante, dans son dialogue sur le haïku, que Shiki va préciser sa théorie. Dans le cadre d'un jeu de questions-réponses, il cherche à mieux montrer la voie aux débutants, à répondre aux railleries de ses opposants et à dissiper les doutes énoncés sur sa méthode. En cinq points, il distingue clairement le haïku de nouveau style, qu'il nomme Shinpa, et le haïku de style ancien qu'il qualifie de banal, tsukinami. Premier point. Le nouveau style fait appel aux émotions personnelles, alors que le style ancien privilégie les connaissances, ce que les deux exemples précités ont montré. Deuxième point. Le nouveau style rejette le genre vieillot quand le style ancien entretient cet archaïsme et exècre le modernisme. Troisième point. Le nouveau style déteste la fadeur du langage, la composition superficielle, si appréciée du style ancien qui, à contrario, réprouve le fusionnel, la relation étroite entre les choses. Quatrième point. Tant que le rythme reste harmonieux, le nouveau style accepte un langage composite où se mêlent des mots raffinés, familiers ou étrangers. Le style ancien, lui, s'enferme dans un parler routinier homogène avec un emploi limité de chinois. Cinquième point pour finir. Pour le nouveau style, il importe peu de se préoccuper des écoles de haïku, alors que le style ancien dispose de multiples coteries et, comme c'est un formidable honneur d'y être accepté, les fondateurs de ces écoles et leurs plus fidèles disciples sont particulièrement honorés et leurs écrits jugés d'une valeur inégalée. Shiki poursuit le développement de sa théorie en s'appuyant sur l'analyse de nombreux haïkus. Faute de temps, je me contenterai de dire quelques conseils de Shiki aux débutants. Composez un haïku pour un thème, puis, petit à petit, essayez autant de variantes que possible. Rivalisez avec d'autres poètes lors de rassemblements poétiques ou de compétitions de haïku, Tentori Haikai, où un maître attribue des points aux participants. Écrire des centaines de poèmes en une heure, c'est bien. Et passer quelques jours à élaborer un seul haïku, c'est bien aussi. Il existe deux types de haïku. L'un est imaginaire, fantaisiste, l'autre réaliste. Le réalisme peut concerner indifféremment les affaires humaines ou les sujets naturels, mais il est plus difficile à appliquer dans le premier cas. Par conséquent, en matière de haïku, il est plus approprié d'explorer les beautés de la nature à des fins de réalisme. Comme nous le voyons, Shiki a progressivement remis en cause toute la pratique traditionnelle du haïku, et nombreux ont été les jeunes poètes à le suivre sur la voie de la modernisation. À suivre.
Yokohama.